girls are west. Me have girls are north, and me have the girls them are south. Yes, Rosie, she a mad over me. Susie, she...
We have 1 minute to go. And it's all about next 6 same place, same time. It's all about the positive vibe. Keep you alive, 90.3 FM.
So, I mean, Maurice Martin, the girl, who we...
I'll leave it with this one.
Cha-cha children, away. Away and shine your light, yes.
Bonjour et bien la voix des immigrants sur CKUT 90.3 FM à Montréal. Je suis Moukala, votre animatrice comme d'habitude. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons parler de l'OIT, donc de l'Organisation internationale du travail. Nous allons parler également de développement durable. Nous n'aurons pas de manchette. Parce que bon, on a quand même du contenu, beaucoup de contenu aujourd'hui. On se laisse donc et on se retrouve tout de suite après cette brève. Premier sujet d'aujourd'hui, donc à l'ordre du jour, l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Donc, je le trouvais intéressant d'en parler. Pourquoi? Parce que, voilà, on parle quand c'est possible, à l'émission, dans cette émission, de la question du travail. Et du travail des immigrants principalement, mais c'est important en tant que donc, nous, personnes immigrantes, de parler également de ces instances qui nous protègent. L'OIT, c'est une instance internationale. Est-ce qu'elle protège les travailleurs immigrants? Pas nécessairement, mais elle traite également donc, de la question du travail immigrant, donc du travail étranger. Donc, l'OIT est une agence tripartite. Donc, rassemblant en fait des représentants gouvernementaux, employeurs et de travailleurs, donc une agence tripartite de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, qui réunit 187 États membres. L'OIT établit des normes internationales en matière de travail. Elle a pour principaux objectifs de promouvoir des droits au travail, d'encourager la création d'emplois décents, de développer la protection sociale et de renforcer le dialogue social dans le domaine du travail. Je parlais de 187 États membres. Vous pouvez aller sur le site de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, vous verrez l'ensemble des pays membres et vous verrez également, en fait, il y a une section qu'on appelle Normes Lex et cette section présente, en fait, les conventions et les pays ayant signé les différentes conventions ou normes internationales. Vous pourrez entre autres voir que le Canada a signé, les normes, en fait, les conventions auxquelles adhère le Canada. Bien intéressant, vous pouvez pour chacune de, nous sommes tous issus de l'immigration, donc chacun du pays, on peut vérifier, finalement, est-ce que mon pays vise l'égalité des chances en matière d'emploi, est-ce que mon pays vise, il y a toutes sortes de normes, hein? Et ainsi de suite, Donc, intéressant, NormLex, NORMLEX, et là, vous pourrez voir quelles normes internationales votre pays adhère. Pour en connaître davantage donc, sur cet organisme qui est l'OIT, je vais vous présenter un court vidéo où on parle de la création rapidement, de l'histoire très rapidement, mais de façon plus approfondie, je dirais, de la mission de l'instance de cette agence tripartite. Donc, un court vidéo de 5 minutes et on se retrouve donc par la suite. C'est pas vrai, on va d'abord écouter ensemble. On se retrouve par la suite, oui, pour écouter, en fait, parler de développement durable. À tout de suite.
Le travail. Que vous en ayez un, que vous en ayez besoin ou que vous dépendiez des autres pour en avoir un, le travail est essentiel à votre bien-être. Le travail donne un but, de la dignité à notre vie. Le travail nous donne notre humanité. Près de 500 millions d'hommes et de femmes ont besoin de travailler. Encore bien plus ont un travail, mais vivent dans la pauvreté. Des centaines de millions ne disposent pas des droits fondamentaux au travail pour que leur gagne-pain soit sain, sûr et salubre. L'Organisation internationale du travail est l'agence des Nations unies qui s'occupe du monde du travail. Elle a été fondée sur l'idée que la justice sociale est essentielle pour une paix universelle et durable. L'OIT s'attache à promouvoir le travail décent pour tous par le biais d'un agenda qui vise à donner aux gens une part équitable dans leur vie professionnelle et dans la société. L'OIT a été créée en 1919 dans le cadre du traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, afin de garantir la justice sociale grâce au travail. Elle est devenue une agence spécialisée des Nations Unies, nouvellement créée après la Deuxième Guerre mondiale. Elle compte maintenant 187 pays membres, nombre qui continue de grandir. L'OIT a reçu le prix Nobel de la paix en 1969 et est considérée aujourd'hui comme l'autorité mondiale du monde du travail. Elle a eu un impact à des moments clés de l'histoire. Le travail de l'OIT touche à presque tous les aspects de notre vie. Que ce soit les réglementations fixant des normes de sécurité et de santé, ou de politiques visant à mettre fin à la discrimination, à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, les normes internationales du travail sont là pour nous protéger. Éradiquer le travail des enfants et le travail forcé. Assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Créer de nouveaux emplois de meilleure qualité. Renforcer les systèmes de protection sociale. Aider les hommes et les femmes à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir au travail. Défendre les droits des travailleurs et des employeurs, y compris par le dialogue social. Le mandat de l'OIT fait partie intégrante des 17 objectifs de développement durable et le travail décent lui-même constitue l'objectif 8 du programme des Nations Unies pour l'agenda 2030. Avec son siège à Genève et plus de 40 bureaux extérieurs dans le monde, l'OIT est une organisation internationale unique, où les gouvernements, mais aussi les employeurs et les travailleurs ont le même nombre de voix. Ils coopèrent pour créer des normes du travail et des politiques qui ont un impact sur l'économie mondiale aujourd'hui. Dirigé par un directeur général, le secrétariat est en charge des recherches et de l'analyse des données sur le monde du travail et soutient les travaux des États membres et des mandants. En juin, l'organisation se réunit pour sa conférence internationale du travail annuelle où sont discutées et adoptées les normes du travail. Un conseil exécutif, le conseil d'administration, se réunit 3 fois par an. Sur le terrain, l'OIT conseille les gouvernements et collabore à des projets à l'échelle nationale pour aider à mettre en pratique les normes et les politiques par le biais d'activités, de formation, d'éducation et de recherche. En 2019, l'OIT a adopté la déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail, afin de répondre à un monde en pleine mutation du fait des innovations technologiques, de l'évolution démographique, du changement climatique et de la mondialisation. Elle prône une approche de l'avenir du travail centrée sur l'humain, une tâche devenue encore plus urgente avec l'épidémie de Covid-19. La crise a révélé une pandémie préexistante de pauvreté et d'inégalité qu'il faut traiter si l'on veut reconstruire le monde en mieux. La déclaration de l'OIT pour l'avenir du travail établit donc une feuille de route en vue de créer un monde plus sûr, plus inclusif et plus juste, avec un travail décent pour tous. La mondialisation, la rupture produite par les nouvelles technologies, la montée des inégalités, le changement climatique et une pandémie, le monde du travail change plus vite que jamais. Forte de plus de 100 ans d'expérience, de connaissances et de réalisations, l'OIT contribue à la paix et à la sécurité, à la croissance économique durable et à la dignité de toutes et tous.
Le monde est confronté à des crises multiples et interdépendantes qui exigent des solutions globales. Aujourd'hui, le besoin de plus de justice sociale signifie que l'OIT et son mandat sont au cœur des préoccupations du monde. Nous avons la capacité, l'énergie et la détermination nécessaires pour traduire ce mandat en solutions qui conduisent à un monde du travail plus durable, plus inclusif et plus résilient.
Me revoilà au micro, donc j'espère que vous avez bien apprécié ce cours vidéo présentant à l'OIT. C'est bien intéressant, visitez le site. Voilà, vous allez en découvrir énormément sur la question du travail, et puis la façon dont le monde, en fait, je dis bien le monde, veut encadrer cette question du travail. Donc, le développement durable maintenant, c'est un peu, on est dans le même grand sujet parce que vous avez, vous êtes sur le site de l'OIT, on parle en fait, l'OIT fait le lien, prône le développement durable, tout simplement. OK? Et donc, qu'est-ce que le développement durable? C'est un concept qui est quand même relativement récent, c'est fou, mais c'est pas tout à fait fou. On part de 1987, donc un concept qui a été inventé par un monsieur Brundtland, donc Brundtland, donc qui a rédigé un rapport, donc en 1987, intitulé « Notre avenir à tous ». Donc, produit donc par la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Donc, le rapport Brundtland définit donc le développement durable par un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs, donc à leurs besoins. Quand on parle de besoins, on fait référence beaucoup aux besoins fondamentaux, donc tout ce qui est se nourrir, fondamentaux de base, donc tout ce qui est se nourrir, se loger, s'habiller, etc. Le développement donc, durable implique une transformation progressive de l'économie, de la société, une transformation où on va, en fait, on veut donc que tout un développement inclusif, où on veut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, où on va considérer l'accès aux ressources, la redistribution du monde, la richesse, c'est quand même intéressant parce que quand on parle de développement durable, souvent on pense j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'environnement, simplement. Donc, on veut, on va le voir tout à l'heure, on va parler de la stratégie gouvernementale du gouvernement du Québec en matière de développement durable. On parle d'économie verte. On parle beaucoup d'économie verte aujourd'hui dans l'actualité. Mais le développement durable a aussi une dimension sociale, ce qui est intéressant parce que j'ai l'impression que de toute façon, tout le monde finit par si tu n'as pas étudié en gestion de l'environnement, des fois, tu as l'impression, en fait, tu peux avoir l'impression que tu as peu à dire en matière de développement durable, mais finalement, tout le monde finit par être impliqué quand on considère la dimension sociale et la dimension également économique du développement durable. Okay. Rapidement, je vais vous présenter, je vais vous parler du schéma, donc un schéma qui a été développé par le gouvernement québécois. Donc, si vous allez sur Internet, vous tapez « développement durable, le gouvernement du Québec », vous allez trouver un schéma, ce super schéma qui présente un peu quelles sont les différentes dimensions du développement durable, en fait, ce que prône l'État québécois en matière de développement durable. Et vous voyez qu'on a, l'aspect environnement. Donc, de protéger les ressources naturelles, la vie terrestre, la vie aquatique et le climat pour le bien des générations futures. On a un aspect collaboration, donc établir des partenariats stratégiques entre tous les acteurs de la société afin de garantir le développement durable. Mais on a un aspect prospérité, donc qui rejoint la dimension économique, donc favoriser la croissance économique et la consommation responsable. Et développer les villes et les infrastructures en harmonie avec la nature. Et on a finalement donc cette dimension sociale, donc où on traite de l'humain, abolir la pauvreté, garantir l'égalité des chances, la santé, l'éducation pour tous et finalement la justice sociale où on veut favoriser la paix sociale, l'équité et l'inclusion au sein de la société. Donc, en parlant de l'ensemble de ces aspects, de ces dimensions du développement durable, j'ai l'impression qu'on se sent tous concernés par le sujet. Donc, intéressant, consulter le site du gouvernement du Québec, en fait, taper tout simplement développement durable, le gouvernement du Québec, et vous allez retrouver donc ce schéma présentant, donc on parle de l'essence du développement durable, mais vous allez retrouver également donc la super définition de développement durable, voilà, que met de l'avant l'État québécois. Maintenant, pour faire le lien avec le développement durable, on va parler des 17 objectifs. Donc, je disais que le développement durable, en fait, je disais que l'OIT prône nécessairement le développement durable. L'OIT, ben, c'est une agence tripartite des Nations Unies. Et donc, pour maintenant poursuivre un peu avec cette super instance qui est les Nations Unies, on va parler, je vous en avais parlé déjà une première fois, des 17 objectifs, enfin, des 17 objectifs des Nations Unies en matière de développement durable. On va en reparler. Je vais vous les nommer, les expliquer davantage cette fois-ci. Puis moi, j'ai étudié en relations industrielles, donc je m'intéresse beaucoup à la question du travail décent. Donc, je vais élaborer davantage sur cette question donc, du travail décent, qui est un objectif voilà, de ces fameux 17 objectifs, l'objectif 8. Donc, les Nations Unies, ça fait, bon, je disais, c'était en quelle année? Ça fait quand même longtemps. C'est pas vrai. En 2015, on a décidé d'élaborer cet objectif. Pourquoi? Cet objectif qui consiste en fait une marche à suivre pour parvenir à un meilleur avenir et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, pardon, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Ces objectifs sont interconnectés pour ne laisser personne de côté. Il est important d'atteindre chacun d'entre eux et chacune d'entre eux, en fait, et chacune des cibles, donc d'ici 2030. Donc, l'objectif était que ben, ces objectifs soient atteints en 2030. Bon, hein, on va lire ensemble les objectifs, on va se dire, bah, c'est impossible. Donc, et puis c'est triste parce que ben, ce sont de beaux objectifs, de super émissions, mais là, j'ai l'impression que voilà, que on est encore loin de l'atteinte de ces objectifs. Donc, il y a énormément de travail à faire. Voilà, c'est triste. 2030, hein, premier objectif, on dit ben, pas de pauvreté. Ben, là, on se pose la question 2030, qui est dans combien d'années? 7 ans, est-ce qu'il doit y avoir éradication de la pauvreté à travers le monde? C'est quand même malheureux. Donc, premier objectif, pas de pauvreté, la croissance économique, pour expliquer l'objectif, la croissance économique doit être partagée pour créer des emplois durables et promouvoir l'égalité. Ensuite, on a un second objectif, zéro. Donc, zéro fin zéro. Donc, le secteur de l'alimentation et de l'agriculture offre des solutions pour le développement. Donc, on veut, ce secteur est au cœur de l'éradication de la faim. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on veut éradiquer la faim et la pauvreté. Voilà, nous, on regarde Vision mondiale, on voit ces enfants qui meurent de faim un peu partout. On associe beaucoup la faim en Afrique, mais ce n'est pas juste en Afrique, hein, c'est un peu partout en Asie. Donc, ce serait une éradication de la faim. J'espère que ça va être le cas, parce que moi, ces images de Vision mondiale, ben, je trouve ça un peu triste. Maintenant, objectif 3, bonne santé et bien-être. Donc, donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges est essentiel pour le développement durable. Donc, on promouvoit le bien-être à tous les âges. Éducation de qualité, qui est le quatrième objectif, donc obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la vie des gens et le développement durable. Donc, on vise sur vraiment une éducation de qualité pour tous, donc peu importe, voilà, pour tous les citoyens, en fait, enfants, citoyens, surtout les enfants. On va écouter un reportage un peu plus tard. Entre autres, on va parler de, ben, voilà, de ces enfants qui travaillent. Et ce que le conférencier dit, c'est que ces enfants qui travaillent, puis en développement, ont droit à l'éducation. Et ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que finalement, ces enfants qui 5 ans, 8 ans, qui doivent accompagner leurs parents au travail, ben finalement, ces enfants plutôt devraient se rendre à l'école, sur les bancs de l'école. Maintenant, égalité entre les sexes, qui est le cinquième objectif. Donc, l'égalité des sexes n'est pas seulement un droit fondamental de la personne, mais aussi un fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et durable. Donc, on parle de droit fondamental quand on parle d'égalité des sexes entre les hommes et les femmes, principalement, entre les hommes et les femmes. Eau propre et assainissement, donc le sixième objectif. Donc, on a besoin d'une eau propre et accessible pour tous et toutes. Un élément donc essentiel du monde dans lequel nous voulons vivre. Septième objectif, énergie propre et d'un coût abordable. Donc, on a besoin d'une énergie propre. Oui, l'énergie durable est une opportunité pour transformer les vies, les économies et la planète. Huitième objectif, qui est l'objectif qui m'intéresse, ben, tu fais mon parcours de mes études, donc travail des seins, croissance économique, je vais y revenir, je vais poursuivre d'abord avec le neuvième objectif. Industrie, innovation et infrastructure, les investissements dans l'infrastructure sont essentiels pour parvenir au développement durable, donc on a besoin d'infrastructures solides. C'est clair que oui. Une infrastructure non solide. Je viens de RDC, du Congo, Kinshasa, et puis ben, c'est ça. Dans les pays en développement, il y a toute une problématique en matière d'infrastructure. Donc, c'est vraiment un objectif qui me rejoint. On a besoin de reconstruire en pays des infrastructures, de reconstruire, je dirais, parce que c'est pas vrai qu'elles sont inexistantes, mais de reconstruire les infrastructures et solides. C'est certain. Donc, ensuite, deuxième objectif, inégalité réduite, donc réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. Onzième objectif, ville et communauté durable, donc l'avenir que nous voulons comprend des villes qui offrent à tous de grandes possibilités, donc des villes, prospère, non, mais des villes où on fait bien vivre, des villes offrant des opportunités à tous et toutes. Consommation et production durable, donc les affaires et production durable, où on veut faire plus et mieux avec moins. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, sont aussi. L'objectif parle de réchauffement climatique. On en parle beaucoup dans l'actualité. Donc, il faut lutter contre les changements climatiques. Vie aquatique, le 14e objectif. Donc, la gestion prudente des océans et mers est vitale pour un avenir durable. Effectivement, on en parle également beaucoup. Un de ces océans, finalement, c'est fou, il y a des déchets qui traînent. Gestion prudente de nos océans et mers, vie terrestre, le 15e objectif, donc déforestation, désertification, donc des problèmes, en cas des réalités qui posent des défis majeurs au développement durable. Maintenant, 16e objectif, paix, justice et institutions efficaces, promotion, promouvoir des sociétés pacifiques, inclusives, l'accès à la justice pour tous, c'est le renforcement des institutions responsables et efficaces à tous les niveaux. Maintenant, le 17e objectif, on parle de partenariat. Donc, essentiellement, ce qu'on sait qu'il est aussi important demain de créer des partenariats pour arriver donc, à l'atteinte de ces 17 objectifs. 8e objectif, donc celui sur lequel celui qui m'intéresse le plus, donc le travail décent et la croissance économique. Ce qu'on dit essentiellement, c'est que nous devons réorganiser nos politiques économiques et sociales visant à éliminer complètement la pauvreté, visant à éliminer au fond le chômage. Ce qu'on veut par le travail décent, c'est que tous et toutes aient accès à un emploi décent. Et quand on parle d'emploi décent, on parle vraiment d'un emploi qui de qualité, donc. Où il y a une protection sociale, vous avez accès à des droits, etc. Donc, une rémunération, une bonne rémunération. Lisez sur le travail décent, c'est intéressant. Sur l'OIT, vous verrez qu'il y a 4 piliers, je les connais plus par cœur, 4 piliers au travail décent, mais bon, trop de ça, on comprend qu'il y a une protection sociale, vous avez accès à des droits, il y a un emploi de qualité, un emploi où vous sentez, un emploi de qualité. On a, voilà, quand vous, pour parler davantage de ce huitième objectif, travail décent et croissance économique, on parle en fait de faits. Okay, donc, on dit que le taux de chômage mondial en 2017 était de 5,6% contre 6,4% en 2000. Bah, ce 6,4%, je pense que c'est relatif. Ça commence à être élevé. 5,6, on est un peu autour de la moyenne, je pense, au Québec. 6,4, là, je pense que bon. Et donc, 6,4 à l'échelle mondiale, je pense que c'est comme ça, un taux de chômage. Voilà, finalement, on doit se poser des questions. À l'échelle mondiale, 61% des travailleurs occupaient un emploi informel en 2016. Voilà, puis l'emploi informel, on va en parler, j'en avais parlé rapidement, c'est un emploi finalement qui, qui absence de protection, absence de droit au fond, des gens qui ne sont pas reconnus, ce qui fait que voilà, c'est des gens un peu, pas des laissés pour compte, mais des gens qui offrent une prestation de travail, c'est à peu près tout, et donc finalement, quand c'est une question de réclamer des droits, ça devient plus complexe. Donc, à l'échelle mondiale, 61% des travailleurs occupaient un emploi informel en 2016. En excluant le secteur agricole, ce qu'on dit, c'est que 51% de tous les travailleurs entraient en fait dans cette catégorie d'emploi informel en 2016. C'est énorme. Les hommes gagnent 12,5% de plus que les femmes dans 40 pays sur 45, en fait, où on a pris, en fait, on a étudié sur cette question d'écart salarial homme-femme. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le monde est de 23%. C'est ça, les hommes gagnent plus. Je pense que les femmes, on doit. Voilà, on est en 2023. 2030, bientôt, on essaie de comprendre pourquoi depuis toujours les hommes gagnent davantage. Je pense qu'il est temps qu'on réclame une égalité en matière de rémunération quand même. Donc, l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le monde est de 23%. Et puis, ben, si vous lisez sur le sujet, combien d'années seront nécessaires pour que cet écart soit réduit à zéro? Énormément. Okay. Le taux d'activité des femmes sur le marché du travail est de 63% et celui des hommes de 94%. Maintenant, ce qu'on dit également, c'est que 470 millions d'emplois par an seront nécessaires dans le monde entre 2016 et 2030 pour les nouveaux venus. 470 millions d'emplois. Okay. Et puis, évidemment, on ne parle pas d'emplois de réduits au secteur informel, qui sont des emplois, finalement, on n'a pas accès à des droits, pas de protection sociale. On parle d'emplois, finalement, qui sont reconnus, où vous avez accès à toute cette protection qui fait en sorte que vous pouvez vivre une vie normale. Voilà. Donc, maintenant, les cibles. Cet objectif sont de maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national. Donc, on veut maintenir un taux de croissance économique. On veut parvenir à un niveau élevé de productivité économique par la diversification, la modernisation technologique, l'innovation, notamment en mettant l'accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-d'œuvre. Ensuite, promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorise des activités productives, la création d'emplois décents, l'entrepreneuriat, la créativité, l'innovation, et stimule donc la croissance des micro-entreprises 2030, parvenir au plein emploi productif, enfin, pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes de cette terre. Donc, on vise donc les jeunes et les personnes handicapées. C'est vrai que les jeunes, et surtout les personnes handicapées, sont des gens qui sont en matière d'emploi, connaissent de grandes difficultés. Donc, d'ici 2030, parvenir au plein emploi productif, entre autres pour les personnes handicapées. On demandait donc jusqu'à 2020 donc de réduire considérablement la proportion de jeunes non scolarisés sans emploi ni formation. Donc là, il faut vérifier, est-ce que on est en 2023, est-ce que cet objectif a été atteint? en fait, réduire considérablement. Donc, on ne parle pas de réduire à zéro, mais considérablement. Donc, la proportion de ces jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation. Prendre autre cible, prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage, c'est des phénomènes horribles, non? Donc, travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des humains, donc traite humaine. Je dirais interdire et éliminer donc, les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats, donc d'ici 2025. J'ai pas l'impression, dans 2 ans, j'ai pas l'impression que cette cible sera atteinte, parce qu'on parle de suppression de ces réalités. Ensuite, autre cible, défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail, assurer la protection de tous les travailleurs, y compris donc, les migrants, en particulier les femmes et ceux qui ont un emploi précaire. D'ici 2030, il a également donc, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable, créant des emplois et mettant la culture, en valeur la culture et les produits locaux. Également donc, renforcer la capacité des institutions financières nationales de favoriser et généraliser l'accès de tous aux services bancaires et financiers et aux services d'assurance. Dernière cible, donc on a accroître l'appui apporté dans le cadre de l'initiative Aide pour le commerce aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés, y compris par l'intermédiaire du cadre intégré renforcé pour l'assistance technique liée au commerce en faveur des pays les moins avancés. Bref, accroître l'appui apporté dans le cadre de l'initiative Aide pour le commerce aux pays en développement. Intéressante cible. Et on avait, donc, d'ici 2020, élaboré et mettre en œuvre une stratégie mondiale en faveur de l'emploi des jeunes et appliquer le pacte mondial pour l'emploi de l'OIT. Donc, les 17 objectifs de développement durable, j'ai précisé un peu ce qui était, celui sur le travail des sans la croissance économique. Donc, intéressant à lire, sur le sujet, finalement. Puis, on est tous au fond, on vérifie à quel point on est tous concernés, puis on vérifie à quel point. Je pense qu'on devrait tous vérifier à quel point on est tous concernés, mais comment on peut participer tous à l'atteinte et toutes à l'atteinte de ces objectifs, le développement durable de cet objectif. Donc, voilà pour cet objectif de développement durable et pour on a présenté au départ donc la définition du développement durable. On va se laisser maintenant pour une petite pause musicale. Donc, l'artiste James, un artiste congolais. Donc, James, hein, donc J-I-M-S, donc la pièce Le Pire. Et on se retrouve par la suite. En fait, on va se retrouver un peu plus tard. On va écouter tout de suite après d'autres vidéos, d'autres courts vidéos donc, de l'OIT. Une première vidéo qui parle donc, du travail décent, donc de comment le travail décent peut amener la paix. La paix, je dirais, dans une société. Et ensuite, une vidéo qui du conférencier qui parle justement de cette question du travail des enfants. Donc, un expert, une personne qui a travaillé à l'OIT, qui va parler justement entre autres du travail des enfants, qui va parler également de justice sociale, puis de l'organisation syndicale, je dirais, qui est encore nécessaire aujourd'hui, en 2023. Donc, on se laisse et on se retrouve un peu plus tard, je dirais, pour la fin de l'émission.
Trop pleurer. Et mais dis-moi explique-moi ce qui se passe. Comme si j'avais 10 ans, assombrir ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop.
But child labor has always also been at the heart of my work. And I was one of those, together with others again, because they don't never do anything alone, who worked hard for the Convention on the Worst Forms of Child Labor. And that was a very, very good moment for us. And it was also important for the question of child labor also, particularly in developing countries, because the whole issue is linked to rights to education. Every child must have a right, has a right to education, and every child must be educated. And this is a fundamental issue that, from the development perspective, that we don't talk about enough. And so the issue of child labor is a question of rights, but it's also a question of access to education, particularly for the girl child. And all marginalized groups, you know, sometimes in countries you have marginalized groups who are completely marginalized from education. So it's really been something which I've really take to heart a lot. Yeah.
So one department where you worked is the ILO's Bureau for Workers' Activities, which acts as a main link between the ILO office and the trade union movement. What memories do you have of your time in this department?
Well, I have really, really good memories of my time in ACTRAV. Very, very pleasant. You know, ACTRAV was the idea, actually, the original of ACTRAV was Albert Thomas, who created a political department with an advisor on for workers' issues and an advisor for employers' issues. That is the origin of ACTRAV and ACTEMP. And during my time in ACTRAV, I saw successive directors and colleagues on the whole, it was one of the most beautiful times, experiences of work, because you got a chance to actually be of service to the workers, you know. And so I had one of the best times of my life as an ILO official working in ACTRAV. And I still consider ACTRAV as my home, original home, because, you know, we developed so many programs on child labor, on export processing zones, defending the workers' group, preparing for the work, helping the workers' group prepare its positions in the governing body. So all these things are things that are, you know, quiet in the background, but very, very important. And one thing also which I appreciated a lot was the work on the ground with trade unions, you know, the training programs, you know, because the training is such a vital element of developing activism, you know, in trade unions. You know, so these were really the when I left ACTRAV, I went into, you know, more kind of, yes, senior positions, you'd say, but in a sense, I missed the work I was really doing in ACTRAV.
Yeah, you mentioned some of the particularities of this department, but if I ask you the critical importance of workers' education, as you know, we have a program in Turin. Why this program must be reinforced to strengthen trade?
Well, this is fundamental. Education is fundamental. Training is fundamental. Because you have people, for instance, I was involved, for instance, in a period where the World Bank came out with its, what they call PRSPs, poverty reduction strategies. And we were lobbying strongly for workers and trade unions around the table. It was supposed to be a participatory process. But it's not sufficient to be around the table. Around the table, fine, good. But it's what content you have, your capacity to articulate the issues that your workers are facing, your capacity to articulate the injustices that people are living through in your country. And you get that capacity through training, ongoing training. So the work on workers' education is so fundamental, a challenge for ACTRAV, but not only for ACTRAV, for the whole of the ILO. We must, you know, lifelong learning is something which is absolutely important to improve our skills and to enhance our skills. For instance, now we have all these very modern technologies available, social media, I have artificial intelligence. And the challenge is, how do we use these for the cause we have to fight social justice? It needs training. Training to how to use the tools and how to use it well to advance our cause for social justice. So workers' education is fundamental. And I think, I'm not saying anything new by saying that for the ILO, this is the most important, probably one of the most important areas in which we must invest in.
So before coming to the ILO here, you served also a long time in the trade union movement, especially within the former World Confederation of Labour. Why do you think that trade unions have been and remain important players in advancing social justice for all?
Yeah, well, trade unions have always played a role in fighting for social justice. In our continent, for instance, in Africa, trade unions played a major role in the decolonization movement. And other countries that have social protection for all, trade unions were at the heart of this. So all the major social fights, social struggles, have had trade unions' involvement. So trade unions have a fundamental role, and have played a fundamental role in the past. Today we are faced with new challenges.
Me revoilà au micro. J'espère que vous avez apprécié, la pièce de James, le père, et deux courts vidéos, en fait, documentaires présentés sur le lien entre le travail et le travail des sons, plutôt, et la paix sociale, ainsi que le reportage, en fait, le conférencier. Je vais vous donner le titre, du conférencier Claude Akpo-Kavi, qui a travaillé des années. Donc, qui parlait entre autres donc, du travail des enfants, puis de l'importance encore aujourd'hui de l'organisation syndicale des travailleurs et de la justice sociale pour une justice sociale, je dirais. On va poursuivre donc avec la stratégie gouvernementale de l'État québécois en matière de développement durable. Mais juste avant, pour revenir à la question d'un normlex, donc je disais que l'OIT avait développé, en fait, vous permet de vérifier quelles sont les conventions, donc les normes internationales ratifiées par chacun des pays. Donc, c'est très intéressant. Donc, on signe à peu près, tu vois, chez moi, qu'est-ce qui se passe? Quel droit mon État défend? Je suis tombée, juste à titre d'exemple, sur le Maroc. Et le Maroc a signé, ratifié 65 conventions. Okay, donc 49 sont en vigueur, 6 ont été dénoncées, c'est probablement des plaintes. Mais bon, 65 conventions, il y a des conventions fondamentales, c'est-à-dire est-ce que l'ensemble des pays doivent les ratifier normalement? Oui, mais qui, d'après moi, font le lien avec les droits fondamentaux de base que chaque nation devrait promouvoir. Donc, le Maroc a, par exemple, ratifié la Convention sur le travail forcé, sur le droit d'organisation et de négociation collective, sur l'égalité de rémunération homme-femme, l'abolition du travail forcé également, la discrimination en emploi, l'âge minimum, sur les pires formes de travail des enfants, et sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. Également, le Maroc a signé des conventions de gouvernance, donc pour, je dirais, de gouvernance du pays, dont celle sur la politique de l'emploi, l'inspection de travail, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Bref, intéressant. Et donc, j'allais dire, la RDC, comme tout le monde sait, mais je n'ai pas vérifié ce que la RDC avait signé, mais le Maroc, 53, donc 65 conventions, et puis membre de l'OIT, donc depuis 1956 quand même. Hein. Ça fait quand même un certain temps. Puis, au fond, ce qu'on veut vérifier maintenant, c'est si l'État respecte les conventions qu'il a ratifiées. Maintenant, concernant donc la stratégie gouvernementale, le développement durable de l'État québécois, donc Donc, une stratégie a été adoptée. Ça fait quand même un certain temps, mais une dernière stratégie a été adoptée en 2023 cette année, donc qui vaut pour 2023-2028. Tout d'abord, il faut savoir que le Québec est l'un des premiers États parmi donc l'ensemble des États à avoir adopté une législation visant spécifiquement le développement durable. Il a amorcé donc en 2006 une transition favorisant à la fois la protection de l'environnement, le progrès social et la prospérité économique. Ce qu'on dit, donc vous irez sur le site, vérifiez donc sur, tapez simplement comme je mentionnais, gouvernement québécois ou gouvernement du Québec, développement durable, et donc vous allez tomber sur cette stratégie. Donc, ce que l'État veut, c'est, en fait, ce qu'il dit essentiellement, c'est qu'afin d'incarner ce changement, donc d'inspirer la société civile et de la mobiliser pour qu'elle suive le mouvement du développement durable, le gouvernement donc, du Québec s'est doté de cet outil, donc de cette stratégie. Également, il a adopté donc, une loi sur le développement durable. Donc, ce que la stratégie veut, c'est intégrer le développement durable dans toutes les sphères d'intervention du gouvernement, à savoir les lois, politiques publiques, les programmes pour accélérer la transition vers un Québec plus prospère, vert et responsable. Donc, c'est un plan mettant en contribution plus de 110 ministères et organismes pour transformer les défis environnementaux et climatiques du Québec en occasion d'affaires, tout en protégeant donc, le portefeuille de l'État québécois, la santé et le bien-être de tous, donc tout citoyen québécois. La stratégie, vous pouvez la consulter donc via cherchant googlant donc comme on dit donc voilà gouvernement développement durable gouvernement du Québec. Également la stratégie tient compte du contexte d'accélération des défis globaux associés à la crise du climat et de la biodiversité dont les impacts affectent la société dans tous ses aspects. Elle fait une place prépondérante aux enjeux auxquels le Québec est confronté de manière à étendre la recherche de solutions concrètes dans toutes les sphères d'intervention de l'État. Donc, ouvrant ainsi de nouveaux champs d'action. Rapidement, donc, les cinq grandes orientations de la stratégie sont donc de faire du Québec un pôle d'innovation et d'excellence en matière d'économie verte et responsable, d'agir en faveur de la nature et pour la santé, de favoriser la participation de tous au développement durable du Québec, de développer des collectivités durables, et de créer un État exemplaire qui agit en faveur de l'innovation, donc d'une gouvernance innovante. Également, ce qu'on dit, c'est que cette stratégie entre dans le cadre du programme des Nations Unies, donc du fameux programme des 17 objectifs de développement durable. Maintenant, juste avant de conclure l'émission, donc, on parle de développement durable et voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le développement durable, au fond, on l'a compris, donc pour toutes les nations, peu importe le niveau de développement. Je disais que je viens du Congo, d'un pays en développement, hein, puis ben, le Maroc aussi, c'est un pays en développement. Le développement durable est utile pour le Maroc, pour le Congo. Bref, donc, ce qui est particulier pour ces pays en développement, c'est que le développement durable, mon Dieu, va aider vraiment à toute cette réalité de l'économie informelle présente à la fois au Maroc, à la fois au Congo, en RDC. Là, j'avais présenté un reportage sur l'économie informelle au Maroc, puis ce qu'on comprend, un peu comme au Congo, c'est une réalité qui fait partie, c'est la réalité du marché du travail, au fond, le travail salarié formel constitue un pourcentage minoritaire du travail, en fait, des relations de travail, si je pourrais dire, ou du travail, versus le travail au sein de l'économie informelle qui constitue donc le pourcentage majoritaire là, du travail, si je peux dire. Donc, un développement durable implique, selon moi, une transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Vous irez toujours sur le site de l'OIT. Une recommandation a été adoptée en 1900 en en 2004, justement pour favoriser cette transition. Pourquoi? Ben parce que l'économie informelle est un frein au développement. Nécessairement, elle va être un frein au développement durable. Donc, pour parler maintenant pas d'économie informelle, parce qu'on a compris ce que c'est, puis ben, si vous lirez davantage sur le sujet, bon, des gens qui travaillent qui ne sont pas reconnus, pas accès à voilà, de la protection, des droits au travail. Donc, on comprend ce que l'économie informelle. Maintenant, ce qu'on veut, c'est comprendre comment mettre en place une stratégie. Donc, comment le Maroc pourrait mettre en place une stratégie pour favoriser véritablement une transition donc, de l'économie informelle vers vers l'économie formelle, pour que le Maroc, ben, finalement, finisse par être un État non en développement, mais un État, une société développée, comme on dit que le Québec est une société développée, ou, bref, le Canada, les États-Unis, donc tous ces pays donc, de l'Occident. Et donc, je vous présente un reportage de Papa Amadou, donc un Sénégalais, Papa Amadou Ndiaye, donc, qui nous parle de la stratégie mise en place au Sénégal pour stratégie nationale pour favoriser donc la formalisation du secteur informel. Et au Maroc, on pourrait donc s'inspirer de cette stratégie. Je suis convaincue qu'au Maroc, des efforts sont mis en la matière, mais clairement, donc, on pourrait s'inspirer de stratégies déjà mises en place pour, dans tous ces pays en développement, qu'on cesse de parler d'économie informelle et qu'on parle d'une économie formelle, en fait, pour l'ensemble des citoyens, du pays, citoyens et citoyennes du pays. Donc, reportage de 13 minutes. On va par la suite écouter la pièce d'Affaire Youssef, Super Éternel, donc une pièce musicale. Et on se retrouve pour la fin de l'émission.
Bonjour, vous que nous suivez sur Seigneur TV, Seigneur.com, et bienvenue dans cet entretien exclusif avec Monsieur le ministre Papa Amadou Ndiaye, qui est le ministre de l'Artisanat, de la Transformation du secteur informel. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le ministre, vous avez présidé vendredi l'atelier de formalisation des acteurs et unités de production de l'économie informelle. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grandes lignes de ce conclave?
Tout à fait. Nous avons ce week-end, avec nos partenaires qui sont les chambres de métiers, échangé sur la stratégie nationale de formalisation du secteur informel. C'est une stratégie innovante qui permet d'avoir un objectif d'améliorer de façon significative la formalisation sur les 3 ou 4 prochaines années. En sachant que l'informalité, qui constitue 97% de l'économie du Sénégal, est considérée par le PSE, qui est la politique de référence des politiques publiques, comme une contrainte qu'il faille lever avant de mettre en place un tissu d'entreprise moderne, résiliente, créatrice d'emplois et de richesses. C'est pourquoi nous avons voulu échanger avec les acteurs afin de leur montrer les possibilités, non seulement tout d'abord les grands axes de cette stratégie, qui sont le premier axe, c'est le financement, qui constitue un élément majeur, parce que le financement de l'activité de l'informel et de l'artisanat en particulier est un financement spécifique. Et aujourd'hui, les acteurs ont des difficultés d'accès au financement habituel et normaux, comme disent certains, c'est-à-dire le financement bancaire et également l'accès au microcrédit. Il y a également le deuxième axe, ce qui constitue l'amélioration de la productivité, car nous avons vu que l'artisanat, malgré son importance, a une productivité relativement faible, locale, qui est souvent inadaptée, ou même sans local, fixe. Il y a également les équipements. Il y a un déficit d'équipements, surtout qu'aujourd'hui, les équipements sont devenus de plus en plus exigeant. Il faut des équipements modernes. Et il y a également, au-delà des équipements, il y a l'accès à la protection sociale, qui est extrêmement difficile. Il y a aussi les structures d'accompagnement, qui sont extrêmement nombreuses, mais sans une coordination. Ce qui fait qu'il y a très souvent un déficit d'impact au niveau des acteurs du fait de cette incoordination. Et il y a aussi, comme cinquième axe, l'enregistrement qu'il faudra faciliter, essayer de travailler à avoir un type unique de formalisation au lieu qu'il y ait des formalisations différentes. Autant de choses et que font que ces huit axes, là j'ai juste parlé des cinq ou six premiers axes, il y a là également l'aspect genre, il y a également la coordination qui constitue d'autres, le dernier axe, qui sont des axes extrêmement importants. Et il fallait donc échanger avec les différents partenaires, en particulier les présidents de chambres de métiers et les OPA, et également les secrétaires généraux qui constituent au niveau du ministère les gens avec qui nous devons travailler en permanence. Et c'est pourquoi nous remercions donc ces partenaires pour avoir répondu à cette invite et avoir échangé pendant 2 jours. Nous allons aussi profiter de l'occasion qui nous était donnée pour mieux expliciter certains leviers importants. L'un des premiers leviers, c'est le statut de l'entrepreneur, qui est la facilité d'accès à la formalisation uniquement à partir de l'enregistrement. Au niveau des greffes, cet enregistrement permet d'avoir accès à l'ensemble des possibilités que donne la formalisation et c'est gratuit. Il suffit juste d'avoir plus de 18 ans, mais également d'amener sa carte d'identité, mais aussi de montrer exactement l'activité, votre activité, certaines informations sur votre activité artisanale. Donc ce statut de l'entrepreneur est extrêmement important et il fallait mieux l'expliciter aux partenaires. Il y a également, au-delà du statut de l'entrepreneur, il y a le... comme que je disais, la société coopérative. C'est un autre levier qui permet aux artisans et au secteur de l'informel d'avoir accès à la formalisation. C'est donc...
Revoilà au micro, donc l'émission est terminée. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez nous contacter on a d'abord les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Ensuite, on a notre département de production, donc prod@commercialsecurity.ca. Vous rappelez donc toujours, comme je le mentionne, donc, que j'effectue du bénévolat au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Donc, si jamais vous avez des problèmes en matière de vous avez besoin de parler de votre situation de travail, donc conditions de travail difficiles, précarité, etc. Donc, contactez-nous au centre 514-342-2111, 514-342-2111. Vous avez le site internet également, donc iwc-cti.ca/fr. Et voilà. Pour l'émission d'aujourd'hui, on se rejoint donc le 24 août prochain. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de semaine. On est donc le 27 juillet. J'ai été au festival de jazz. Je vous avais parlé de l'émission dernière. J'ai pas été à l'élite. C'est un événement dansant. Mais je ne me suis pas rendue à l'élite, mais j'ai été voir donc, la prestation de Pierre Coindeuse, excellente prestation. Et ensuite, quelle autre prestation j'ai été voir? Je ne me rappelle plus, mais je suis partie également au Festival Mid-Afrique, j'ai oublié de vous le mentionner la dernière fois. Et au Festival Mid-Afrique, j'ai assisté à la présentation d'un artiste congolais également, donc Kizaba, un artiste congolais de Montréal. Donc, on se dit au 24 août prochain. Merci, bonne journée, bonne soirée.
Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio. From drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between, professional, student, and community productions in and around Montreal, the island also known as Jojage in the Ganyagaha language and Munayang in Anishinaabe Moan, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah De A. Live in studio on Thursday, July 27th, 2023. On tonight's show, my guests include Emmy-winning comedian Robbie Hoffman returns to her hometown. I'll ask her about her new comedy special, growing up religious with so many siblings, and why she had to leave Montreal to make things happen. We'll also meet dancer Barbara Dibo, originally from Ganawage. She's now based in Montreal and has 25 years of choreography.